Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Bon début de semaine à tous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur cette petite phrase d'Emmanuel Macron sur le Togo. Le statu quo n'est pas possible. C'est ce qu'a déclaré le président français la semaine dernière lors de son déplacement au Nigeria. Allusion évidemment au bras de fer que se livrent depuis près d'un an l'opposition et le pouvoir. En tout cas, les deux camps voient dans cette déclaration d'Emmanuel Macron un soutien du président français. Le pouvoir estime qu'il n'a fait que répéter la position du gouvernement. Et l'opposition se dit, elle, confortée dans la nécessité de faire des réformes pour permettre une transition politique. Alors justement, vous qui nous écoutez au Togo, dites-nous comment vous interprétez cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Et nous tenterons évidemment de voir ensemble comment mettre fin à ce statu quo, à cette impasse qui dure depuis maintenant quasiment un an. 33 9 693 693 70. Vous continuez également à réagir sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques réactions tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. On va commencer avec une question sur ce nouvel empoisonnement au Novitchok en Grande-Bretagne. Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui. Ok. L'agent innervant Novitchok a une fois fait des victimes en Grande-Bretagne après l'empoisonnement de Sergueï et où il a Skripal en mars dernier. Mmh. Et l'une des victimes est même décédée. Lors du premier empoisonnement, la Grande-Bretagne a accusé à tort ou à raison la Russie d'en être responsable. Alors ma question est de savoir, face au nouveau cas, y a-t-il des possibilités de voir le mercure une nouvelle fois monter entre les deux pays?
Ah, effectivement, c'est vrai que l'annonce hier soir du décès de la Britannique contaminée au Novitchok risque bien de dégrader encore un peu plus les relations entre Londres et Moscou. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service international de RFI. Je rappelle que la femme en question est donc décédée hier soir. Son compagnon est quant à lui toujours dans un état très critique. La première ministre Theresa May s'est dit horrifiée, choquée par la mort de cette Britannique de 44 ans, les choses ne vont bien sûr pas s'améliorer.
Oui, évidemment, on peut s'attendre à une nouvelle montée de tension, même si dans l'immédiat, c'est la démission du ministre du Brexit qui occupe tous les esprits au Royaume-Uni. La semaine dernière, on a assisté déjà à un échange d'amabilité entre Londres et Moscou. Le ministre britannique de l'Intérieur, M. Javid, a appelé l'État russe à s'expliquer exactement sur ce qui s'est passé. Alors, vous le savez, les autorités britanniques estiment que la Russie est derrière l'attaque qui a conduit à l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergueï Skripal et de sa fille à Salisbury en mars. Et elle pense que ce nouvel empoisonnement qui s'est produit à une douzaine de kilomètres de là, empoisonnement au Novitchok donc, est lié à cette première attaque. Donc le ton est vraiment monté. Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des communes, le député conservateur Tom Tugendhat, parle même d'un crime de guerre, un acte de terreur absolument odieux conduit par un État qui prétend être un État normal.
Et que répond Moscou à ces accusations graves?
Alors, la réaction de Moscou est très vive également. La porte-parole de la diplomatie russe, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, a dénoncé jeudi les sales jeux politiques commencés par certaines forces à Londres. Le gouvernement de Theresa May et ses représentants auront à s'excuser, a même prévenu Maria Zakharova. À Moscou, on dénonce en fait une hystérie britannique. On parle de provocation et on s'étonne publiquement du fait qu'aucune preuve sérieuse incriminant la Russie n'ait jusque-là été produite, concernant en tout cas l'empoisonnement du père et de la fille Skripal. La diplomatie russe rappelle régulièrement qu'elle a proposé une enquête conjointe sur l'empoisonnement de Salisbury dès le début, mais au lieu de coopérer, Londres préfère créer la confusion et intimider ses propres citoyens. C'est ce qu'a tweeté l'ambassadeur russe à Londres.
Et tout cela, évidemment, ne risque pas d'arranger les relations entre Londres et Moscou.
Non, et ces relations sont au plus bas depuis l'affaire Skripal en mars. Le Royaume-Uni, vous vous en souvenez sans doute, a expulsé 23 diplomates russes. Il a suspendu ses contacts bilatéraux avec la Russie. Moscou en a fait de même. Il a fermé le British Council, l'organisme international britannique pour les relations culturelles et l'éducation. Et puis là, en ce moment, c'est la Coupe du Monde de football en Russie. Les Britanniques sont
en demi-finale.
Exactement. Et il n'y aura ni représentant diplomatique britannique, ni représentant de la couronne royale à cette demi-finale. Et puis les supporters britanniques, eux, peuvent lire cet avertissement sur le site internet du ministère britannique des Affaires étrangères. En raison des tensions politiques accrues entre le Royaume-Uni et la Russie, vous devez être conscient de la possibilité de sentiments anti-britanniques, de harcèlement en ce moment. Voilà ce que dit le message. À noter quand même qu'il n'y a eu jusque-là aucun débordement ou acte hostile envers les supporters britanniques dans les villes où se déroule le mondial.
Et c'était l'une des inquiétudes des autorités britanniques. Emmanuel, a-t-on répondu à vos questions ?
Ok, parfaitement, merci.
Eh bien, un grand merci surtout à Anastasia Becchio qui est venue ce matin. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et merci Emmanuel de nous avoir appelé. Bonne journée à Abidjan où il est 8h16, 33 9 693 693 70. Il était il y a quelques instants dans le journal de Catherine Potet. Il est en direct avec nous. C'est l'un des envoyés spéciaux de RFI. C'est même le seul envoyé spécial de RFI sur la route du Tour de France. Bonjour Éric Chorin.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
En direct de Cholet, c'est un contre-la-montre par équipe qui attend aujourd'hui le peloton. Nous vous avons contacté ce matin car on a reçu des questions concernant la participation de Chris Froome au Tour de France. Ça a surpris plus d'un spectateur depuis samedi de voir Chris Froome sur la route du Tour. Mais voilà, il a été blanchi, ce qui suscite des réactions et des questions au standard. Gabriel, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour Eric Chorin.
Nous vous écoutons, vous êtes à Lubumbashi.
L'Union cycliste internationale a annoncé lundi passé avoir blanchi Chris Froome en clôturant la procédure concernant les contrôles antidopage qu'il avait subi en 2017, en septembre bien sûr. Ma question est celle-ci Juan. Quels sont les éléments qui ont poussé l'Union cycliste internationale à déclore la procédure contre Chris Froome 5 jours avant les coups d'envoi du Tour de France édition 2018.
Alors Éric Chorin, c'est vrai qu'il a fallu une interminable procédure qui a duré tout de même près de 10 mois pour que l'UCI décide de sanctionner ou pas le quadruple vainqueur du Tour de France. Pourquoi cette procédure a-t-elle été particulièrement longue ?
Eh bien, cette procédure, c'est toujours très très long les procédures dans les cas de contrôle positif. Rappelons déjà que ce contrôle sur le Tour d'Espagne à la sortie de l'été 2017 ne portait pas sur un produit interdit puisqu'il s'agit du salbutamol, produit qui fait partie de la ventoline utilisée donc comme anti-asthmatique. C'est un produit bien connu. Donc ça n'est pas un produit interdit. En revanche, c'est la présence, c'est le taux de salbutamol qu'il y avait dans les urines de Chris Froome qui avait été considéré comme anormal, non conforme à une prise médicamenteuse thérapeutique par inhalation de ce produit. Sauf que voilà, il y a eu une grosse bataille d'experts justement tout au long de ces 9 mois de procédure pour permettre aux experts notamment de Chris Froome de démontrer que cette inhalation n'était pas contradictoire finalement avec la prise par inhalation de ce produit. Et c'est finalement les défenseurs de Chris Froome qui ont eu gain de cause sur ce cas puisque l'agence mondiale antidopage a considéré, mais seulement le 28 juin dernier, que ce contrôle ne constituait pas un contrôle positif. Finalement, c'était très très peu de temps avant le départ du Tour de France, qui avait décidé, par la voix de ses organisateurs, de ne pas associer Chris Froome au Tour de France cette année, tant que la décision n'avait pas été rendue. Mais comme l'AMA a considéré qu'il n'y avait pas de contrôle positif, l'Union cycliste internationale s'est appuyée sur les conclusions de la plus haute autorité en ce domaine pour clore la procédure à l'encontre du coureur britannique. Et finalement, les organisateurs du Tour l'ont autorisé à participer. C'est sûr que le calendrier...
Bah oui, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur le calendrier, sur le timing. On peut, en tant que spectateur passionné de vélo, se dire, tiens, probablement que la direction du Tour de France a fait pression sur l'Union cycliste internationale pour qu'elle prenne une décision sur ce dossier.
Le président de l'UCI, en tout cas David Lapartien, qui est français lui aussi, s'en défend. Hein. Il explique très clairement que c'est les délais de procédure normaux et que la décision de l'AMA ayant été rendue juste le 28 juin, c'est dans la foulée que l'UCI a pris cette décision. Le dirigeant du Tour, Christian Prudhomme notamment, s'est dit un petit peu, lui il était en colère justement sur ces délais de procédure et sur le trouble que ça suscite, puisque entre-temps, vous le savez, Chris Froome a quand même remporté le Tour d'Italie à alors qu'il y avait cette suspicion de dopage. Aujourd'hui, levé, il a voulu éviter la même chose pour le Tour de France. On aura du mal à le savoir. En tout cas, sur les routes, les gens sont effectivement pas convaincus. Il a été hué lors du départ du Tour en Vendée par le public. Les gens ont peut-être du mal à comprendre que cette décision a été rendue. Ils ont du mal aussi peut-être à accepter qu'un homme qui règne sur le Tour de France soit encore justement présent cette année. On a toujours bien aimé on a toujours eu du mal avec ces coureurs qui dominent totalement le Tour. C'était déjà le cas avec Lance Armstrong et on a su par la suite ce qu'il en était avec l'Américain.
Oui, en tout cas, il vise un cinquième titre. Il reste le favori de cette édition, même si pour l'instant il est en 84e position, si mon classement sous les yeux est bon. On imagine qu'il dominera le contre-la-montre par équipe ce lundi, qu'il risque d'aller un peu plus haut dans le classement.
En tout cas, ce contre-la-montre par équipe avec une grosse équipe de rouleurs autour de lui devrait lui permettre de regagner une partie du temps qu'il a perdu lors de la première étape parce qu'il est tombé pour ajouter à ses récents malheurs. Mais il a perdu par exemple 50 secondes sur le français Romain Bardet, troisième du Tour l'an dernier, ou Tom Dumoulin qui était son dauphin sur le récent Tour d'Italie. Son équipe est armée pour reprendre du temps tout à l'heure dans l'après-midi, mais elle s'est jamais jusqu'ici retrouvée dans cette position de devoir refaire 50 secondes de retard sur d'autres favoris pour le Tour aussitôt, même si on l'a déjà vu, Chris Froome, il est déjà tombé, il a déjà eu des malheurs, il a déjà été capable de renverser la vapeur ensuite, ce qui a rajouté généralement encore plus de suspicion à son encontre. En tout cas, cette course a bien démarré avec des leaders un petit peu menacés et puis des sprinteurs qui pour l'instant ont régné sur la route. Ça devrait changer ce soir, on verra si Peter Sagan, qui a pris le maillot jaune hier, va pouvoir le défendre avec son équipe. Lui va s'élancer en dernier avec son équipe, alors que Chris Froome lui va partir en deuxième tellement ils sont mal classés, les coureurs de l'équipe Sky, après les différents incidents qu'il a connus depuis le départ du Tour.
Eh bien, on suivra tout cela tout au long de l'après-midi dans nos différents journaux avec vous, Eric Chorin en direct de Cholet. Gabriel, bonne journée à Lubumbashi, merci de nous avoir appelés. Alejandro Valente, le chef du service des sports, est déjà arrivé, mais il va patienter un tout petit peu. D'abord, on va prendre un auditeur qui a des questions concernant l'élection d'une femme à la mairie de Tunis. C'est la première fois que la capitale tunisienne est dirigée par une femme. Bonjour Kamel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Vous êtes justement à Tunis et vous avez des questions à poser à la rédaction. Nous vous écoutons.
D'accord. Donc Madame Souad Abderrahim, tête de liste du parti politique Nava lors des élections municipales de 6 mai, a été élue maire de Tunis. En fait, c'est la première fois en Tunisie que la mairie sera présidée par une femme. C'est un poste aussi religieux que politique. Je voudrais savoir vraiment comment compte-t-elle mener cette fonction traditionnellement gérée par des hommes et aussi comment compte-t-elle incarner le programme, bien évidemment, de Nava, son parti.
Effectivement. Bonjour Perrine Massy.
Bonjour Juan, bonjour Kamel, bonjour à tous.
Correspondante de RFI à Tunis. Avant de répondre précisément à la question de Kamel qui lui vit sur place et il sait de quoi il nous parle, expliquez-nous de quelle mission religieuse parle-t-on lorsqu'il s'agit de parler du maire de Tunis ?
Alors en effet, lorsqu'on est élu maire de Tunis, c'est une tradition, on obtient le titre honorifique et religieux de cheikh de la Médina. On devrait d'ailleurs plutôt dire cheikha, féminiser le titre, puisque c'est dorénavant une femme. Et ce cheikh de la Médina a un rôle particulier, vous l'avez dit, pendant le mois de Ramadan, à la veille de la 27e nuit du Ramadan, plus exactement. C'est une nuit qu'on appelle la nuit du destin. À cette occasion, une fête est célébrée dans les mosquées et le protocole veut que chaque année, à cette date, se réunissent à la grande mosquée de la Zitouna le président de la République, le chef du gouvernement, le président du Parlement et le cheikh de la Médina. Or, cela est réservé aux hommes. Et les premiers à l'avoir fait remarquer, ce sont d'ailleurs les adversaires du parti islamiste Ennahda, ceux de Nida Tounes, qui ne souhaitaient pas que Souad Abderrahim soit élu. Comment une femme peut-elle être chère? On a des traditions religieuses, ce n'est pas possible, avait ainsi déclaré Fouad Bouslama, le porte-parole de Nida Tounes en mai dernier.
Alors maintenant que Souad Abderrahim a été élu, que va-t-il se passer l'an prochain au moment de cette fameuse nuit du destin?
Eh bien, quand on demande à Ennahda, la réponse ne vient pas. pas tout de suite. Du côté du parti, on prend bien soin de préciser d'abord que cette question est réductrice, qu'elle est hors sujet. Mais en réalité, la solution évoquée, quand on insiste un peu, est tout simplement de faire assumer cette tâche à l'un des vice-présidents de la municipalité, à un homme donc, plutôt qu'à Souad Abderrahim, et tant pis pour la chéra de la Médina.
Alors, pour répondre rapidement à Kamel, qui nous demandait comment cette femme va essayer d'incarner le programme islamiste d'Ennahda, faut dire aux auditeurs qu'elle se présente comme étant indépendante, même si elle a été élue sous l'étiquette d'Ennahda.
Oui, exactement, Juan. Alors, bon, en réalité, c'est une compagne de route de longue date du parti, mais elle n'est pas encartée. En revanche, en tant que tête de liste, effectivement, elle s'est engagée à respecter le programme du parti, évidemment. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'élections municipales et que les prérogatives de la nouvelle mairesse de Tunis sont locales. Et le programme d'Ennahda pour la capitale est un programme plutôt classique. Améliorer l'infrastructure, les services, la gestion des déchets, surtout qui pose beaucoup de problèmes à Tunis. D'ailleurs, les déclarations de Souad Abderrahim à l'issue de son élection vont dans ce sens. L'esthétique de la capitale, l'environnement font partie de ses priorités.
Donc finalement, son programme n'a pas vraiment de référent religieux ou de teinte conservatrice. Merci beaucoup Perrine Massy d'avoir été avec nous, correspondante à Tunis de RFI. On souhaite évidemment une belle journée à Kamel. Je vous le disais il y a quelques instants, Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI, est à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Des questions sur la Coupe du Monde de football après l'élimination de l'Argentine. Mijo, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes à Pointe-Noire, nous vous écoutons.
Oui, l'équipe d'Argentine a été battue 4-3 par la France au 8e de finale de la Coupe du Monde. Et quel est l'avenir de Lionel Messi à l'équipe nationale? Maradona veut prendre l'équipe et quelles sont ses ambitions et quelle est la position de la Fédération Argentine de Football?
Alors, Alejandro Valente, l'heure est à la reconstruction du football argentin. Il n'y a rien à sauver, disait il y a quelques jours Diego Maradona. D'abord, l'avenir de Lionel Messi, est-ce qu'il prendra sa retraite internationale?
Difficile à dire, il est parti en vacances aussitôt après l'élimination, sans prendre la parole, sans s'exprimer. Donc je pense que à son retour de vacances, il dira ce qu'il en est. Il y a deux échéances à venir pour l'équipe d'Argentine. La première, c'est dans un an, c'est la Copa América au Brésil. Et puis, il y a la Coupe du Monde 2022 dans 4 ans et demi.
Évidemment, dans 4 ans, il aura 35 ans.
Voilà, exactement. Donc, il y a peut-être, alors, est-ce qu'il va rester jusqu'en 2022? Difficile à dire. En tout cas, pour la Copa América du Brésil, c'est beaucoup plus rapproché. On peut imaginer qu'il y ait, beaucoup des trentenaires qui restent quand même pour assurer une sorte de transition pour cette prochaine échéance qui est quand même importante. C'est au Brésil et c'est un tournoi que l'Argentine ne remporte pas depuis longtemps.
En tout cas, l'Argentine va devoir trouver la relève, détecter des talents. Évidemment, Alejandro Valente se pose la question du sélectionneur. Jorge Sampaoli reste-t-il ou Maradona a-t-il une chance, comme il le souhaiterait, de reprendre la sélection?
Alors, Sampaoli a un contrat jusqu'en 2022. Vous savez, la Fédération Argentine a des gros problèmes financiers, donc les licenciés coûte très très cher, ça coûterait, on a calculé environ 16 millions d'euros.
Ah oui.
Donc c'est des moyens qui n'existent pas. Après, il est tellement impopulaire qu'on est en train de négocier. Sûrement cette semaine, il y aura un accord à l'amiable, en tout cas c'est ce qu'on espère, entre le président Claudio Tapia et Jorge Sampaoli, qui a par ailleurs d'offres intéressantes venues d'ailleurs. Qui va-t-il désigner? Alors là, il faut d'abord terminer cette négociation. Maradona, certainement pas. Maradona n'a pas laissé un bon souvenir à la tête de l'équipe nationale. En plus, il est très virulent à l'encontre de Claudio Tapia, donc on peut difficilement imaginer que le président de la fédération veuille l'avoir avec lui. Ses expériences au Qatar et en Biélorussie ne sont pas très concluantes.
Et puis quand il était à la tête de la sélection,
l'Argentine avait fini par un 4-0 assez sanglant face à l'Allemagne en 2010, et ça n'a pas été concluant. Donc après, il y a beaucoup de candidats, comme souvent. Les problèmes pour l'Argentine, c'est construire surtout un projet reconstruire un peu les équipes des jeunes, ce qui a été délaissé ces dernières années. Donc c'est un travail sûrement de longue haleine.
Donc pas de Maradona à la tête de la sélection argentine. Franchement, non, voilà qui est dit. Maradona a beau être un dieu en Argentine, on n'en veut plus à la tête de la sélection.
Voilà, exactement. Bah, les dieux peuvent rester dans leur Olympe, mais...
Qu'ils restent dans les tribunes.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup Alejandro Valente d'être venu répondre à Mijot qui nous appelait de Pointe-Noire. D'autres questions à la rédaction de RFI, évidemment. Demain matin, à suivre le journal et on revient dans 10 minutes. Vous pourrez évidemment commenter cette petite phrase d'Emmanuel Macron sur le Togo. Le statu quo n'est pas possible.